Il est pile 19h30 ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez et tout de suite ce sont les dessous de l'Infox. Bonsoir Grégory Genevrier.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Les dessous de l'Infox. Grégory Genevrier.
Véritable révolution scientifique et technologique. L'intelligence artificielle est une nouvelle arme redoutable sur le front de la désinformation. Avec la démocratisation des outils de génération d'images, de sons et de vidéos, la frontière entre le vrai et le faux tend à disparaître. Alors comment s'en prémunir? Quelle place pour la réalité des faits? On en parle avec notre invitée, Carole Bien-Aimé-Bess, experte des médias et du numérique. Elle vient de publier « Crépuscule numérique, quand l'IA bouleverse notre rapport à la vérité » aux éditions de l'Observatoire. Quand l'intelligence artificielle s'empare d'un fait d'actualité et alimente les tensions, nous reviendrons sur ces manifestations à Los Angeles cette semaine. On fera le point sur les infox les plus virales avec Olivier Four de la cellule InfoVérif de RFI. Et puis le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, le général Michael Langley, aurait-il démissionné après une brouille avec le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré? C'est faux, nous dira Émilie Béraud de l'AFP Factuel. Mais avant ça, place à l'invité. Bonjour Carole Bien-Aimé-Bess.
Bonjour Grégory Genevrier, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous êtes experte des médias et du numérique, ancienne membre de l'ARCOM, l'autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. Et vous venez de publier « Crépuscule numérique, quand l'intelligence artificielle bouleverse notre rapport à la vérité » aux éditions de l'Observatoire. Alors avant qu'on explore les différents défis que vous soulevez dans cet essai, j'aimerais d'abord qu'on définisse ensemble ce terme d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un concept utilisé un petit peu à toutes les sauces, un mot valise très à la mode. Dans les faits, qu'est-ce que ça désigne concrètement?
En fait, ça désigne la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution d'un problème, la perception ou la prise de décision. C'est ce qu'on entend par intelligence artificielle.
Donc tout outil qui utilise un algorithme n'est pas forcément un outil d'intelligence artificielle?
Pas forcément, même si souvent, effectivement, les algorithmes tels qu'on les connaît... Déjà, il faut aussi redéfinir un algorithme, parce qu'un algorithme, c'est une succession d'éléments qui permettent d'arriver à un tout. Donc, si je prends une recette de cuisine, par exemple, avec plusieurs étapes et plusieurs ingrédients, c'est un algorithme en soi. Tout n'est pas numérique. La notion d'algorithme, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, on l'associe au numérique, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, pour revenir à l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle utilise souvent des algorithmes, les plus connus étant les algorithmes de recommandation. Et moi, je mets aussi un pluriel à intelligence artificielle parce qu'il y a plusieurs intelligences artificielles, parce qu'on le voit bien dans la définition. Elles peuvent nous aider à faire énormément de choses. Et donc, je dirais, moi, pour chaque fonctionnalité, on peut parler d'une IA.
J'ai noté une citation que j'aime beaucoup dans votre ouvrage à propos de ce perfectionnement de ces outils d'intelligence artificielle et de leur démocratisation aussi. Vous écrivez « Le réel tend à disparaître au profit d'un monde contrefait ».
Oui,
c'est vrai. C'est un constat un peu...
C'est un constat extrêmement sombre. Et c'est pour ça que je parle aussi de crépuscule dans ce livre, parce qu'on est à une période aujourd'hui où il est devenu très, très difficile de distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire que on a atteint un niveau de fulgurance en matière d'innovation qui fait qu'aujourd'hui, on a des technologies qui ont la capacité, finalement, de falsifier un peu tout ce qui existe. Donc, ça nous saute aux yeux dans le domaine de l'image et du son, bien évidemment, mais c'est aussi le cas dans le domaine de l'écrit et pour d'autres domaines qui touchent nos vies et qui affectent aussi les différents pans, les différentes industries, les différents pans économiques. Et donc, c'est effectivement un message d'alerte dans le cadre de ce livre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la capacité de potentiellement tout falsifier et on n'a pas encore inventé les technologies capables de détecter ce qui a été falsifié ou contrefait.
Et l'incarnation parfaite de ce faux qu'on peut réaliser pour presque tout aujourd'hui, c'est notamment les fameux deepfakes, les hypertrucages.
Oui, alors les hypertrucages, mais on avait déjà les photos. Enfin, sincèrement, vous travaillez beaucoup avec des agences comme Reuters ou l'AFP, et on a vu fleurir sur la toile début 2023, au moment de l'apparition de ces fameux outils d'IA générative, comme Midjourney, qui ont créé des photos absolument incroyables de grands courant de ce monde qu'on aurait pu penser être vrai. Enfin, Donald Trump en prison, Emmanuel Macron pris à partie par des manifestants. Donc déjà, ces photos, elles étaient plus que réalistes, même si elles pouvaient sembler saugrenues. C'est vrai que le pape François mis habillé de façon étrange avec des vêtements de sport, oui, ça pouvait surprendre. Et effectivement, là, on pouvait être alerté. Mais sur les autres photos dont je vous parle, celles de Donald Trump, celles d'Emmanuel Macron, elles étaient extrêmement réalistes et effectivement, on pouvait se faire berner. Et on peut aussi aller au-delà en parlant effectivement de la vidéo et du son avec ces hyper-trucages qui ont la capacité effectivement de reproduire une voix de manière extrêmement bien faite et de reproduire aussi des vidéos, d'en créer avec des personnages vivants ou morts d'ailleurs, ou tout simplement de créer de fausses informations. Il y a une chaîne d'infos qui existe qui n'est que générée par IA, donc vous imaginez aujourd'hui ce qu'on est capable de faire et comme en plus le cerveau il a tendance aussi à se faire berner, c'est devenu effectivement très compliqué de s'informer aujourd'hui, surtout qu'en plus on est pour en rajouter dans un contexte d'obésité informationnelle.
Un des exemples que vous citez dans votre livre qui reste un des exemples les plus marquants de deepfake, c'est notamment celui de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. J'aimerais qu'on en écoute un petit extrait.
Les Ukrainiens, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже легко.
Alors pour ceux qui ne parlent pas ukrainien, on pense entendre le président ukrainien annoncer que ses troupes vont se retirer du front. Donc ça, c'est un deepfake qui a circulé début 2023, je crois, à peu près.
C'était au tout début de la guerre, hein. Vraiment au tout début, alors qu'on a ce besoin de rassembler ses troupes et de faire front. Tout à coup, on a cette vidéo qui tourne sur les chaînes d'information ukrainiennes. Enfin, on a l'impression que c'est issu d'une chaîne d'information ukrainienne, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Et ça pullule sur la toile. Et effectivement, c'était assez saisissant de véracité. Et
on imagine l'impact que ça pourrait avoir sur le front.
Exactement. Et ça a eu un impact, puisqu'on a mis du temps à se rendre compte que c'était faux. Alors là, c'était tellement énorme en termes de messages passé qui allait évidemment à l'encontre de ce qui était dit et de ce que tous les alliés pouvaient dire. Donc tout le monde s'est repris assez vite et on a évidemment identifié la vidéo comme étant un deepfake. Mais il y a plein de vidéos sur des sujets beaucoup plus anodins qui circulent et pour lesquels il n'y a aucune alerte ou parfois on met des mois, des semaines avant de se rendre compte que c'est un faux. En matière de santé, en matière économique.
Il n'y a aucun secteur qui n'est épargné.
Et bien sûr.
En parlant de ces deepfakes, les médias aujourd'hui sont régulièrement ciblés justement par ce type de manipulation, qu'elle soit visuelle ou sonore. RFI n'échappe pas à la règle, bien au contraire. On a comptabilisé près d'une dizaine de contenus usurpant notre identité ces dernières semaines. J'aimerais aussi qu'on écoute un extrait d'un faux journal attribué à tort à la radio du Monde.
L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet.
Dans une annonce surprenante, Corneille Nangaï-Yobeluo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire accusé d'atrocités dans l'est du pays.
Alors ce journal, ce n'est pas RFI qui l'a produit, la voix, on pense entendre un de nos journalistes,
bien
Arthur
sûr.
Ponchelet qui travaille au Service Afrique, ce n'est pas lui, quelqu'un a reproduit sa voix avec une intelligence artificielle, un sujet sensible, on touche ici à la guerre dans l'est de la RDC. Comment expliquer que les médias aujourd'hui soient des cibles quasiment systématiques de ce type de manipulation ?
Parce que les médias sont des sources fiables, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la fiabilité, donc votre logo, la voix d'un journaliste connu ou son image. Et ensuite, on va se servir de cette fiabilité, donc de ces références, pour capter l'attention. Donc, on va se dire, ah oui, ça c'est fiable, j'y vais, je peux me fier à l'information qui me sera donnée. Et ensuite, en profiter pour, grâce à des outils technologiques que tout le monde a à portée de main, c'est ça qui est devenu problématique et qui fait que c'est devenu effectivement très viral, c'est que tout le monde sur son téléphone peut installer ces outils et créer ces faux reportages en quelques minutes à un coût absolument très très faible. Et effectivement, on a beaucoup de médias traditionnels sur lesquels s'appuient tous ceux qui créent de la désinformation pour faire en sorte que ces messages se propagent à vitesse grand V. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui se font avoir. C'est-à-dire que ça se propage de manière extrêmement large. Donc, comment informer toutes les personnes qui ont été touchées par ce contenu ? qu'elles ont été bernées. C'est ça qui est devenu extrêmement compliqué.
Les dessous de l'Infox sur RFI.
Carole Bien-Aimé-Besse, je rappelle que vous êtes experte des médias et du numérique. Est-ce qu'on peut dire que la preuve par l'image, la preuve par le son aujourd'hui est vouée à disparaître ?
Alors, j'aimerais vous dire que non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tout pour que ça n'arrive pas, parce que, et c'est un pan du livre, c'est-à-dire que si on ne peut plus rendre justice en s'appuyant sur des preuves tangibles, ça va être très très compliqué pour le droit et pour nos démocraties. Donc, évidemment que non, il faut tout faire pour que la preuve par l'image, la preuve par le son, elle soit encore acceptable dans nos tribunaux et fiable et tangible. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, j'insiste, moi, pour qu'il y ait un vrai sursaut, pour que l'innovation s'empare de ce sujet pour faire en sorte de créer des outils qui soient capables de détecter le vrai du faux. Parce que si on ne peut plus se fier à des vidéos, aux caméras de surveillance, si on ne peut plus se fier au son, à la voix des uns et des autres, c'est terminé. Enfin, je veux dire, on va sombrer, c'est plus le chaos, c'est plus le crépuscule, ça va être le chaos. Donc, clairement, il faut effectivement que les outils d'innovation accélèrent pour identifier et détecter ce qui a été falsifié. Il faut que, aussi, l'éthique revienne au cœur d'innovation et il faut que la régulation, bien évidemment, prenne sa part et s'empare de ce sujet de manière rapide. Mais ça veut dire que les ingénieurs viennent aussi en soutien des régulateurs.
Alors, on parle beaucoup de ces intelligences artificielles capables de générer des images, des vidéos ou du son, on vient de l'évoquer. Mais vous mettez aussi la lumière sur ces IA qui permettent de cibler plus facilement tel ou tel public.
Oui, je peux vous parler des réseaux sociaux parce que c'est de cela dont on parle. Je peux aussi reparler de l'économie de l'attention, c'est-à-dire que plus vous passez de temps sur une plateforme numérique, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un site pour acheter, une plateforme de vente, que ce soit un réseau social, que ce soit un site web où vous regardez des vidéos, plus vous passez de temps, plus l'algorithme va puiser sur votre comportement et se nourrir pour pouvoir vous proposer telle ou telle chose et aller parfois jusqu'à orienter votre manière de penser, votre manière d'agir et votre manière de voter, etc. etc. Donc, on pense évidemment à Cambridge Analytica, à Facebook, ce partenariat fait avec cette agence de communication qui a orienté les votes lors du premier mandat de Donald Trump, lors du premier mandat, lors notamment aussi du scrutin lié au Brexit. Donc, on voit bien que ces algorithmes de recommandation, ils sont très puissants. Ils s'affinent, ils se nourrissent, donc on parle de machine learning, donc ils se nourrissent et ils apprennent sur nos données, sur les données que nous leur donnons de manière volontaire en se connectant à ces plateformes. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est assez préoccupant parce que, clairement, est-ce qu'on a vraiment encore notre libre arbitre ? Ben, je ne le sais pas.
Vous insistez aussi sur les différents biais cognitifs qui sont des portes ouvertes à la désinformation. Est-ce qu'on peut dire que l'IA a appris à jouer avec nos faiblesses, à les exploiter ?
Bien sûr. Alors, elle a appris déjà à exploiter nos émotions. Donc, elle sait que les contenus les plus clivants sont ceux qui vont le plus attirer notre attention. C'est-à-dire que tout ce qui génère de la colère, de l'angoisse, de la peur, ce sont des contenus que l'algorithme va pousser parce que c'est ceux qui créent le plus d'engagement sur la plateforme. C'est ceux qui vont me maintenir connecté et qui vont ensuite, que je vais republier, soit pour alerter des proches ou autres, etc. etc.
C'est donc ce qui vous fait parler de dictature des émotions.
Exactement. Et ensuite, on sait qu'on a des biais, c'est-à-dire que plus une information est nouvelle et fraîche, elle va attirer notre attention. Donc ça, c'est une chose. Deux, vous avez aussi le fait de voir une information, que ce soit répétée, le côté répétitif. Même si c'est faux, on va penser que c'est vrai. Donc notre cerveau, il est fait comme ça. On a aussi le mensonge social. Vous savez, ces petits arrangements qu'on peut faire pour faire société. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un dans votre entourage, vous lui confiez une mission, et puis en fait, elle ne va pas être très bien faite, mais pour l'encourager, vous allez lui dire que oui, c'est finalement pas si mal et ça permet de garder une bonne relation avec cette personne, et etc. etc. Donc ça, je ne dis pas que ce soit négatif, hein, parce que ça nous permet de faire société. Mais notre cerveau, il a une capacité à s'arranger avec la vérité. Donc ça, l'algorithme, enfin, ceux qui conçoivent les algorithmes, c'est parce que ce n'est pas l'algorithme tout seul, ce sont ceux qui conçoivent les algorithmes qui l'ont bien compris, se servir de ces biais cognitifs pour pouvoir ensuite servir leur modèle d'affaires Et c'est pour ça que je parle d'éthique, c'est-à-dire que moi, je considère que tous ces ingénieurs devraient revenir à une éthique quand ils conçoivent ces outils. L'idée, c'est pas de freiner l'innovation. Le numérique, c'est formidable, mais quand ça reste au service de l'humain, donc quand c'est au service d'un médecin pour pouvoir identifier un cancer du sein ou autre, eh bien, tout ça est formidable, mais quand c'est nous faire rester pour pouvoir nous contrôler, nous manipuler à des fins politiques ou commerciales, eh bien là, on a un problème. Et effectivement, quand l'humain devient un produit, c'est problématique.
Et les autres algorithmes aussi qui peuvent poser problème, Carole Bien-Aimé-Besse, c'est ceux qui sont capables d'amplifier artificiellement la propagation d'une fausse information.
Exactement. Donc, on le voit bien, je parlais de répétition. Donc, quand l'algorithme pousse des informations fausses, parce qu'il a assez de capacité, en leur donnant une ampleur qui est totalement fausse, et notamment en enfermant les utilisateurs des plateformes dans des bulles algorithmiques, bulles de filtre, où on va vous proposer constamment la même information, où vous allez avoir l'impression que c'est la perception du monde, que c'est la perception que vous avez du monde est réelle, alors qu'en fait, on ne vous propose qu'une toute petite partie de ce qui se passe, ça change totalement votre perception du monde. Et il y a des sujets sur lesquels vous ne serez absolument pas informé, parce qu'effectivement, l'algorithme aura considéré que c'est ce qui vous convient et ce dont vous avez besoin.
Ce qui vous fait écrire qu'il ne s'agit plus uniquement de vendre du faux, mais aussi d'instrumentaliser le vrai.
Exactement. On voit bien que certaines puissances tentent de déstabiliser certaines démocraties. Donc, on sait que les punaises de lit, les étoiles de David taguées, tout ça, ce sont une instrumentalisation du vrai pour déstabiliser des démocraties. Donc, faire penser qu'en France, on ne maîtrise pas les questions sanitaires. Donc, on va prendre un exemple de punaise de lit. Oui, c'est un problème sanitaire, mais qui est connu, qui est géré. Et là, tout à coup, on a donné le sentiment que la France était totalement infestée, alors que ce n'était pas le cas. Et vraiment, j'alerte là-dessus, parce que ça déstabilise totalement. On voit bien que là, on a remis en cause nos autorités en disant, mais en fait, vous ne savez pas. Enfin, voilà, on sortait du Covid. Il y a maintenant ces questions sanitaires liées aux punaises de lit. Alors qu'en fait, c'est vraiment, ça venait d'Azerbaïdjan, de Russie, pour déstabiliser et décrédibiliser ceux qui nous gouvernent.
Dernière question, Carole Bien-Aimé-Besse. On vient de faire le constat, qui peut paraître un peu noir peut-être. Quelles sont les réponses à apporter ? Vous parlez notamment d'une réponse multidimensionnelle face à ce phénomène.
Oui, alors j'ai parlé moi d'éthique, remettre l'éthique au cœur. Ces innovations, la technologie doit rester au service de l'humain. Je parle de régulation, bien évidemment. Donc, faire en sorte que le temps du droit et de la réflexion sur la régulation, elle s'accélère, que les ingénieurs viennent en soutien pour faire en sorte qu'on arrive à une régulation qui soit pertinente et qui ne soit pas, parce qu'on voit bien la tendance aussi de se dire « Ouh là là là, ça va trop vite, donc on arrête tout, on crée une espèce des textes de loi qui sont totalement délirants et qui empêchent ensuite d'innover. » Donc ça, il n'est pas question de ça. En revanche, il faut arriver à aller plus vite pour que ce droit soit vraiment au service justement d'une innovation qui soit beaucoup plus éthique et vertueuse. Et ensuite, évidemment, c'est éducation aux médias, éducation au numérique, faire en sorte que chacun, tout un chacun, soit formé sur ces sujets dès le plus jeune âge. Alors, je sais qu'on demande beaucoup, beaucoup à l'école. Ça doit aussi être, je pense, que les familles s'en emparent, l'école, évidemment, que les journalistes, mais je sais que vous le faites, évidemment, fassent beaucoup, beaucoup de contenu d'éducation aux médias pour aider le cerveau à s'entraîner pour pouvoir lutter contre ça. Et puis, je crois qu'il y a aussi un sursaut de passe sombrer dans un espèce de petite musique un peu fataliste qui se considérerait que finalement c'est pas si grave, tout ce faux qui nous entoure, que c'est même assez amusant. Enfin, on a vu le cas de cette femme qui s'était fait escroquer par des personnes qui ont utilisé l'image de Brad Pitt, mais ça arrive à tout le monde, hein. Là c'était Brad Pitt, demain c'est le faux banquier. Donc je crois qu'il faut pas être résigné par rapport à ça et qu'il faut qu'on se fasse tous violence en se disant que oui, la vérité est importante pour faire société. Oui, la vérité est importante pour nos démocraties et elle est importante aussi pour notre santé, tout simplement. Donc vraiment, j'alerte là-dessus et c'est pour ça que je parle de riposte un peu multidimensionnelle, parce que c'est un sujet qui est collectif et qui doit être pris en main par tout un chacun.
Un message d'espoir. Ne restons pas indifférents face à ce phénomène. Merci Carole Bien-Aimée Besse, experte des médias et du numérique, ancienne membre de l'Autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. Et je rappelle le titre de votre essai, Crépuscule numérique, quand l'IA bouleverse notre rapport à la vérité.
Merci beaucoup.
On en parle.
Grâce aux outils d'intelligence artificielle, on vient de l'entendre, la fabrication de fausses informations n'a jamais été aussi accessible. Conséquence, chaque fait d'actualité est désormais ciblé par des images et des vidéos inauthentiques. Les émeutes récentes à Los Angeles n'y ont pas échappé. Depuis vendredi dernier, la deuxième ville des États-Unis est en proie à des heurts parfois violents entre des manifestants et les forces de l'ordre. Un couvre-feu a été imposé en début de semaine pour tenter de mettre fin au pillage. Quelques 700 marines ont été envoyées sur place, rejoignant près de 4000 militaires de la garde nationale. Un déploiement de force dénoncé par les autorités locales qui parlent d'un abus de pouvoir de la part de Donald Trump. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Sur les réseaux sociaux, la confusion et les fausses informations entourent ces affrontements à Los Angeles. Et parfois, ce sont les agents conversationnels, les chatbots comme ChatGPT ou Grok qui viennent semer le trouble.
Oui, deux photos ont retenu notre attention. Elles ont provoqué une polémique sur les réseaux sociaux. Des images montrant des soldats américains allongés sur le sol en train de dormir les uns contre les autres dans ce qui semble être un poste de sécurité ou le sous-sol d'un bâtiment. Ces photos ont été vues des centaines de milliers de fois rien que sur le réseau X et elles ont été partagées par le compte du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui, comme vous le savez, s'est opposé à Donald Trump à propos du déploiement de l'armée dans les rues de Los Angeles.
Et on le devine, Olivier, son compte est très suivi sur les réseaux.
Oui, il a plus de 2 200 000 followers, rien que sur X. Dans son commentaire, il dénonce les conditions déplorables dans lesquelles les soldats seraient logés. Et il s'adresse directement à Donald Trump, il écrit, je cite, « Vous avez envoyé des troupes ici sans carburant, sans nourriture, sans même un endroit pour dormir. S'il y en a un qui manque de respect à notre armée, c'est bien vous. »
Et alors, vérification faite, Olivier, ces images sont-elles réelles?
Alors, cette question, beaucoup d'utilisateurs d'Internet se la sont posées et ils s'en sont remis à l'avis de Grok, l'IA d'Elon Musk, où ils ont aussi interrogé ChatGPT. Juste après le partage de ces images, ces agents conversationnels ont affirmé à tort que ces clichés semblaient montrer le retrait des soldats américains d'Afghanistan à l'aéroport de Kaboul durant l'été 2021.
Et c'est ce qui a poussé certains à croire à tort que le gouverneur aurait menti, Olivier.
Oui, après vérification, finalement, c'est l'IA qui s'est trompée. Ces images sont bien réelles. Elles ont été prises à Los Angeles et publiées par un journal sérieux, le San Francisco Chronicle, dans son édition du 9 juin. La rédaction assure qu'elle a obtenu ces deux clichés en exclusivité et qu'ils montrent des soldats en train de se reposer dans différents immeubles fédéraux qu'ils ont été chargés de protéger. Une recherche par image inversée permet d'établir que ces photos n'ont jamais été mises en ligne avant le 9 juin dernier, donc elles ne peuvent pas avoir été publiées il y a 4 ans lors du retrait d'Afghanistan. Donc attention, Grok ou ChatGPT ne sont pas des outils de fact-checking.
Oui, c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, les vrais exemples de désinformation autour de ces affrontements ne manquent pas sur les réseaux.
Oui, avec des images générées par IA, comme celle de Bob, ce soldat américain, censé avoir été déployé pour protéger Los Angeles. Il se filme dans la ville en mode portrait et il répand de fausses informations. Ces images ont fait le tour des plateformes, mais il s'agit en fait d'un personnage entièrement créé par des outils d'intelligence artificielle. À bien observer la vidéo, on peut noter certaines incohérences, comme le grade du soldat, qui ne correspond à rien de connu, les couleurs des feux de circulation à l'arrière-plan, ou encore les lettres LAPC sur une voiture de police, alors qu'en principe c'est LAPD, Los Angeles Police Department, qui peut être inscrit en lettres noires sur fond blanc sur les véhicules de la police de la ville.
Merci beaucoup Olivier Four, votre chronique est à réécouter sans modération sur notre application RFI Pure Radio.
Vérification faite.
Allez, on en vient à cette rumeur virale au Sahel ces dernières semaines. Certains affirment que le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, le général Michael Langley, aurait démissionné. En cause, une prétendue brouille avec Ibrahim Traoré, le chef de la junte burkinabé. Bonjour Émilie Béraud.
Bonjour.
Journaliste à l'AFP Factuel, vous avez mené l'enquête sur cette infox ciblant l'Africom, une campagne de désinformation lancée en mai 2025 et basée sur plusieurs publications sur X et Facebook.
Oui, et Grégory, des posts publiés par des dizaines de comptes basés en Afrique de l'Ouest, principalement au Mali et au Burkina Faso. Ils font référence à des propos du général Langley qui avait évoqué la corruption au Burkina Faso. Burkina Faso en avril dernier, s'attirant les foudres des autorités burkinabées et celles d'une partie de la population locale.
Alors avons-nous des preuves de cette prétendue démission du général ?
Non, aucun article ne l'évoque dans la presse internationale, aucune annonce n'a été formulée en ce sens sur les réseaux sociaux de M. Langley, ni sur les canaux de communication officiels de l'Africom ou du ministère américain de la Défense. Nous avons par ailleurs directement contacté l'Africom qui nous a assuré que le général n'avait pas quitté ses fonctions.
Ce que prouve également, Émilie, ses dernières apparitions publiques.
Oui, le général Langley s'est bel et bien exprimé en qualité de commandant de l'Africom plusieurs jours après la diffusion de cette rumeur sur les réseaux sociaux. On retrouve par exemple une vidéo de sa prise de parole devant une commission du Congrès américain le 10 juin dernier, où il revient sur les défis majeurs de son commandement en Afrique.
Carson, that's a great question. I've always been through my tenure of command.
Au début de son allocution, il mentionne aussi la fin prochaine de son mandat.
Oui, car s'il n'a pas démissionné, comme l'affirment à tort plusieurs internautes, Michael Langley va prochainement être remplacé.
C'est en tout cas ce que nous a indiqué le service de presse de l'Africom. La nomination de son successeur a été annoncée par le Pentagone le 4 juin, mais il doit encore être entendu par le Sénat avant de pouvoir prendre ses fonctions. Le général Langley, lui, est à la tête de l'Africom depuis près de 3 ans. La fin annoncée de son mandat n'est donc pas tellement surprenante et correspond à celle effectuée par la plupart de ses prédécesseurs. Soyons clairs, cela n'a aucun rapport avec les tensions en cours entre le chef de l'Africom et la junte burkinabé.
Alors justement, Émilie, que sait-on des tensions en cours entre le Burkina Faso et l'Africom ?
Les relations entre l'Africom et les autorités burkinabées sont en revanche bien refroidies ces dernières semaines. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a dénoncé des propos, je cite, pour le moins regrettable, du général Langley, qui avait notamment mis en cause la gestion de l'or par la junte en pointant du doigt son capitaine, Ibrahim Traoré. Par la suite, à la fin du mois d'avril, des collectifs de soutien aux militaires au pouvoir avaient appelé à des rassemblements dans les rues de la capitale, Ouagadougou, un climat propice à la diffusion de fausses informations visant le général. Pour autant, le chef de l'Africom n'a pas démissionné et les opérations du commandement militaire américain en Afrique sont toujours d'actualité.
Merci Émilie Béraud. Votre travail est à retrouver plus en détail sur le site de l'AFP Factuel. Les dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en ligne en tapant RFI Info Vérif dans un moteur de recherche. Merci à notre invité, à nos chroniqueurs ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, Sophie Malibaud reprend les rênes de l'émission. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplin pour la suite de RFI Soir.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Voilà pour les dessous de l'Infox à retrouver sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale. Dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir dans RFI Soir. Ce sera avec vous, Zéphirin Kouadio, au sommaire, notamment, entre autres, la RDC, la rencontre entre la patronne de la MONUSCO et le leader de l'AFC M23.
Oui, rencontre entre Bintou Keïta, chef de la mission des Nations Unies en RDC, et Corneille Nangaa, le chef du mouvement AFC M23, réunion à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, pour échanger, nous dit-on, sur la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne, notamment la protection des civils. Et on parlera justement d'une des conséquences du conflit entre l'AFC M23 et l'armée congolaise, l'augmentation des violences basées sur le genre, violences qui ont atteint un niveau alarmant selon Médecins Sans Frontières.
Tout autre chose de l'économie avec la Chine. La Chine qui est prête à supprimer les droits de douane pour 53 pays africains.
Et oui, une annonce forte, hein, même si Pékin n'a pas encore précisé la date de l'entrée en vigueur de cette mesure. L'objectif affiché par la Chine, c'est en tout cas d'importer plus de produits en provenance d'Afrique, ce qui pourrait compter pour les grandes économies industrielles du continent, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore l'Égypte et le Maroc. On reviendra aussi, Philippe, sur l'attaque d'un convoi de l'armée malienne et de l'Africa Corps dans la région de Kidal, dans le nord du Mali. On parlera également de la marche de solidarité pour Gaza, marche stoppé en Libye par le maréchal Khalifa Haftar.
Tout cela donc avec les journalistes, les envoyés spéciaux et les analystes de RFI. Ce sera Afrique Soir dans, allez, précisément